Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Oh!
Puis du jour au lendemain, ben, t'as pas le choix quand t'es plus capable de te lever, ne serait-ce que même de te doucher, d'arrêter. Puis ça, cette phase d'arrêt-là, elle est extrêmement difficile.
Une enquête canadienne révèle que 21% des milléniaux considèrent être atteints d'une maladie mentale. Un jeune sur quatre aurait subi un épisode de dépression. Qu'est-ce qui se passe avec nous? J'en discute avec l'enseignante Rachel Hippolyte, la réalisatrice Caraz et le docteur en neurosciences Joël Monzé. Merci beaucoup d'être ici. Si on se fie à l'indice de bonheur léger, au Québec, plus on est jeune, plus on est malheureux. Donc, après avoir connu les X et l'amertume, est-ce que les milléniaux seraient la génération du mal-être, Joël?
Je ne sais pas si c'est la génération du mal-être. Je pense qu'il y a une chose qui est assez intéressante. Ma grand-mère est devenue, en fait, institutrice, titulaire de classe à 14 ans. Ma mère et ma tante à 16 ans. Aujourd'hui, pour faire le même travail, il faut 24 ans. Autrement dit, en l'espace de 80 années, on a augmenté d'une dizaine d'années le nombre d'années d'études nécessaires pour pouvoir être autonome. Et souvent, donc, il y a un clash entre biologiquement, j'ai envie de prendre mon autonomie, j'ai envie de faire mes choses par moi-même, j'ai envie de me réaliser, et le fait d'être maintenu dans un système scolaire qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui fait en sorte qu'il y a plein de situations dans lesquelles les jeunes, il n'y a pas de sens. Et ce manque de sens-là fait en sorte qu'il y a une perte de confiance et une perte d'espoir. Et il n'y a rien, je pense, de plus terrible pour quelqu'un, quel que soit son âge, de ne pas avoir d'espoir.
Rachel et Cynthia, vous avez toutes les deux vécu un épisode dépressif. Est-ce que vous avez l'impression que l'époque dans laquelle on vit a eu un impact sur votre état?
Oui puis non. Non, parce que il y a beaucoup d'aspects de la dépression que c'est personnel. C'est-à-dire que j'avais des difficultés intrinsèques, j'avais des deuils qui n'étaient pas encore réglés, des trucs comme ça. Ce qui fait que non, effectivement, l'époque, ça aurait pu être en 1982 ou en 2032, ça ne changerait rien. Mais par rapport aux professionnels, c'est là que c'était plus problématique. Comme prof, on a souvent des tâches qui ne sont pas valorisantes et on n'est pas nécessairement accompagné là-dedans. Puis les ressources ne sont pas toujours là, ce qui fait que comme titulaire de classe que j'étais à ce moment-là, c'était d'autant plus difficile. Puis c'est ce jusqu'au boutisme-là qui m'a mené à partir, en fait.
Je comprends.
Donc, personnellement, oui, j'avais mes propres enjeux, mais professionnellement aussi, l'organisation du travail n'a pas aidé, maintenant.
Cynthia, de ton côté?
Je pense que ça aurait très bien pu arriver il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Puis, je pense que l'époque dans laquelle on vit agit un peu comme une loupe au sens où tout est tellement médiatisé, tout est tellement dans l'instantanéité que je pense que c'est un facteur d'élargissement.
On s'expose beaucoup.
On s'expose beaucoup, puis aussi les standards, notre culture, la société de performance est beaucoup plus valorisée qu'avant, mais je pense qu'elle a toujours été, tu sais, dans le modèle capitalisme, c'est important de performer, c'est important d'avoir des bonnes notes, d'accomplir des choses, puis de se
trouver. De décrocher le bon emploi.
Exactement, c'est ça, puis je pense que dans les dernières décennies, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, on dirait que c'est amplifié, comme tout est médiatisé, comme tout le monde peut avoir sa chaîne personnelle, que ce soit sur les médias sociaux.
Facebook et d'autres.
Facebook, exactement. On a tellement une vitrine qui est plus grande sur le monde, mais aussi la futilité du monde. C'est surtout la...
La futilité de notre propre existence, peut-être.
Quelque part, on est beaucoup dans le monde de l'image. Et on n'est pas con. On sait très bien que c'est une image et que c'est pas nous. Or, la base qui est derrière, c'est qu'il y a une recherche d'être des personnes, d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé dans ce que l'on est, bien au-delà de ce que l'on fait. Et c'est comme si ce clash est amplifié, parce que plus on est dans le monde virtuel, plus il y a un décalage entre ce que l'on voit de nous et ce que l'on est, et ça, ça fait probablement terriblement souffrir les gens.
Il y a nécessairement quelque chose de générationnel, parce que selon la Harvard Business Review, l'âge moyen d'une dépression est assez récemment passé de 50 ans pour une première dépression à 20 ans. Donc, il y a un changement. Est-ce que les jeunes sont vraiment plus déprimés ou on parle simplement plus de santé mentale?
Mais il faut faire attention dans ce qu'on appelle de santé mentale. Je pense que pour l'instant, on a beaucoup trop tendance à rapidement mettre des quêtes personnelles dans un problème de santé mentale.
Des crises existentielles?
Mais la crise existentielle n'est pas un problème de santé mentale. C'est en fait, c'est une nécessité. Quand l'enfant fait son terrible tout, il est dans une crise existentielle, mais qui est terrible. Et à un moment donné, ça déborde et jette à terre. La même chose à 4 4 ans, la même chose en adolescence. Il y a plein de moments où on va vivre des crises existentielles et elles nous permettent enfin de nous adapter d'une manière nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon... En termes de maturation dans notre cerveau, notre cerveau est capable de faire des plus belles choses, des plus larges choses. Ça nous permet d'aborder beaucoup plus la complexité. Et si on peut apprivoiser justement cette crise-là, par exemple, l'état de dépression qu'on peut retrouver beaucoup chez les jeunes adolescents, on appelle ça communément le spleen. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'adolescence, c'est blanc ou noir, c'est bon ou mal, c'est très polarisé. Ce qui est normal à l'adolescence, c'est inquiétant à 40 ans, mais à l'adolescence, c'est tout à fait normal. Donc, le spleen, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, c'était état de dépression qui va être vécu, ça oblige en fait le jeune à aller regarder en dedans de lui et de vérifier je suis qui moi en tant que personne, qu'est-ce que je veux faire, à quoi est-ce que je veux contribuer moi en tant qu'individu, en tant que personne à part entière à cette société qui parfois est désarçonnante, merci. Et donc ce spleen-là a une fonction, la même chose quand on fait un burn-out, on s'adapte à un paquet de situations, on s'adapte, et il y a un moment donné où la boucle de stress qui nous a permis nous adapter pendant des années, il va s'effondrer et il vaut mieux d'ailleurs qu'elle s'effondre parce que sinon c'est la crise cardiaque, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes hommes vont faire des crises cardiaques, d'accord? Donc c'est ce fameux burn-out, c'est une obligation entre guillemets qu'on a de regarder qu'est-ce qui fait sens pour moi.
Une recherche canadienne avance que ce sont les milléniaux qui souffrent le plus de dépression au travail. Vous, est-ce que votre milieu de travail a eu un impact à jouer dans votre état, Rachel, clairement?
Oui. Oui, ça a eu un impact. Lors de mon premier burn-out, en 2011, j'avais une classe extrêmement difficile et la psychoéducatrice qui commençait à suivre un de mes élèves est partie. Ce qui fait que tu te retrouves seul. Il reste que même si t'es dans une équipe de travail, mais tu sais, quand ta porte de la classe est fermée, t'es tout seul.
T'es sans démuni.
Là. Mm-hmm. Puis là, t'as plein d'élèves qui dépendent de toi. Puis là, c'est de se retrouver totalement démuni puis t'sais, d'essayer de creuser en dedans de soi-même pour avoir ces ressources-là pour pouvoir les donner à ses élèves. Mais j'étais pas capable. Mm-hmm. J'étais plus capable de le faire.
Cynthia, selon ton expérience, est-ce qu'on a une adaptation à faire par rapport à notre vie professionnelle?
La vie change du tout au tout là, quand on a un diagnostic de dépression. Mm-hmm. Dans mon cas, par exemple, j'ai dû tout arrêter. J'étais entrepreneur, je performais super bien, j'avais une business en peinture résidentielle, j'allais temps plein à l'école, puis j'avais un copain qui habitait à Québec, à 3 heures de route. Puis je jonglais tout
petit
ça, là, comme
mandat.
Je dis. Ouais, petit mandat, exactement. Puis du jour au lendemain, ben, t'as pas le choix, quand t'es plus capable de te lever, ne serait-ce que même de te doucher, d'arrêter. Puis ça, cette phase d'arrêt-là, elle est extrêmement difficile. Tantôt, on disait que bon, les milléniaux sont la génération qui fait le plus de dépression, qui sont le moins riches que leurs parents, mais c'est aussi la génération qui a le plus d'entrepreneurs, donc des gens qui partent à leur compte, qui veulent vivre de leur passion. Est-ce que le fait d'être entrepreneur, comme on sait que c'est un milieu qui est extrêmement difficile, avec des gros highs puis des gros lows, est-ce que ça augmente pas les chances de vivre un épisode de dépression?
Mais c'est certain. Et en fait, autant quand on est entrepreneur, pour reprendre ta question, autant c'est quelque chose de passionnant parce qu'on peut vraiment créer sa vie comme on a envie de la créer et moins répondre aux desiderata d'autres personnes. Même quand on est pigiste, il y a quand même une certaine liberté. On parlait tantôt de précarité. Moi, j'aurais envie de dire, c'est d'accepter l'instabilité. D'accepter l'instabilité pour être capable de pouvoir vivre de sa passion. Et plus on va vivre de sa passion, plus il y a une énergie là-dedans. Par contre, il y a un piège. Aussi bien toi, qui es fonctionnaire dans ton métier d'enseignant, que pour toi comme entrepreneur, ainsi que pour moi, si on n'apprend pas à prendre soin de nous, c'est certain que c'est là qu'on va trébucher. Et prendre soin de nous, ça veut dire prendre les moyens, identifier qu'est-ce qui me fait du bien. Et plus il y a une demande en termes de charge émotionnelle au travail, et plus il faut trouver le moyen de prendre soin de soi pendant la journée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épisode dépressif, qu'on n'aura pas à un moment donné moins de ressources et qu'il ne faudra pas éventuellement s'arrêter pendant quelques temps, mais on va descendre moins vite. On va sentir beaucoup plus les moments, les indices qui nous disent « Oups, attention, je suis en train de basculer là. Je vais m'arrêter, je m'arrête 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et à partir de là, on est capable de repartir sans nécessairement avoir un besoin de support extérieur. Mais il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à prendre soin de soi, en faisant attention à ton métier et à ce qui te fait triper.
C'est très difficile, ça, parce que dans des professions qui sont justement très précaires ou compétitives, on se fait beaucoup dire qu'on doit travailler par passion. Donc, on capitalise sur cet élan-là qu'on a.
En enseignement, c'est pareil, là, la vocation, c'est que ça. Supposément, il faut avoir la vocation et donner tout son cœur et machin. Là.
Mais quand c'est imposé, c'est beaucoup plus difficile que ce soit une vocation. Parce que c'est quelque chose d'extérieur qui nous l'impose. Et si on utilise ce terme de vocation pour minimiser, en fait, un paquet d'éléments qui sont importants, entre autres, tout le support que tu disais que tu n'avais pas. Oui, mais c'est ta passion, tu vas être capable. C'est ta vocation, mais tu vas être capable. Non, non, non. Il y a des limites à ça. D'accord? Même si tu y vas par choix d'aller dans des écoles dans lesquelles il y a des limites. Et là, quelque part, notre société doit se poser des questions. On doit se poser des questions. L'humain, on en fait quoi?
Ouais. On dit on en ressort avec des forces. Mm-hmm. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir eu quelques séquelles qui me restent encore aujourd'hui.
Même si on est, entre guillemets, moins performant, c'est pas vrai qu'on est moins performant. On va simplement être capable de mieux se suivre et de dire il y a des choses que je n'ai plus le goût de vivre et c'est mon droit de ne pas les choisir.
Mais ça prend un certain temps, je pense.
Mais le cerveau, il y a des traumatismes. Le cerveau atteint sa pleine maturité entre 40 et 45 ans. Mm. Et je crois que le traumatisme, c'est le manque d'acceptation sociale, c'est le jugement de l'autre et c'est la société de nouveau de l'image où on va valoriser un gladiateur et pas une personne qui se respecte. Donc si à travers ce qu'on vit, on est capable de pouvoir juste s'apprécier d'être en paix avec soi, être en paix avec nos choix, à ce moment-là, ben, si l'autre ne m'aime pas, c'est pas grave.
Pour terminer, les filles, qu'est-ce que ça change d'avoir connu un épisode dépressif dans sa vingtaine?
Autant que quand je l'ai vécu, je m'en voulais tellement d'avoir perdu une année de ma vie à ne rien bâtir, à prendre du retard. Puis je l'ai vu négativement longtemps et ce que j'en retire aujourd'hui d'y penser, c'est que ça m'a appris à, de un, célébrer les petites victoires, puis de deux, avoir une routine de vie qui est plus équilibrée. Dans le fond, c'est pas parce qu'on travaille par passion qu'on n'a pas besoin de temps pour soi. Puis je suis très heureuse de l'avoir découvert là, dans ma vingtaine, parce que moi, les gens que j'ai connus qui ont fait des dépressions, j'avais 22 ans, donc c'est pas bien vieux. Je pouvais regarder mes parents qui avaient fait les deux des dépressions. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour eux d'avoir une routine santé. Donc, je me considère chanceuse d'être passée à travers ça puis d'avoir vécu ces difficultés-là parce que autant que lorsque je l'ai vécu, ça a entraîné de la culpabilité, du mépris de moi-même, des sentiments qui étaient super négatifs, qu'aujourd'hui, c'est une de mes forces. Puis je m'arrête pas en disant non avec la culpabilité de dire non. Au contraire, je suis vraiment fière de pouvoir le dire.
Je suis contente.
C'est vraiment beau. Oui.
Rachel, de ton côté, qu'est-ce que ça a changé?
Ça m'a forcé à admettre que je n'étais pas invincible, que je n'étais pas immortelle non plus, ayant eu des pensées noires. Je suis capable de aussi plus repérer ce que je veux, ce que je vaux, d'essayer de me fier à mon instinct aussi. T'sais, on repère plus facilement dans ce genre de moment-là nos amis, les gens avec qui on veut se tenir, les gens qu'on veut côtoyer. Puis c'est sûr que ça rend plus fragile, ça rend plus craintif par rapport aux nouvelles personnes de l'entourage, mais ça aide à solidifier ce qu'on a déjà.
Alors c'est certain que c'est pas agréable, il y a de la détresse là-dedans. Ça, on va pas la nier, cette détresse-là. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il y a une force de vie que vous avez été capable de trouver à l'intérieur. Et si notre société pouvait justement voir ces épisodes de dépression ou de burn-out et offrir un encadrement adéquat pour ces personnes-là, ne serait-ce que financièrement, de les accompagner de la même manière qu'on accompagne des jeunes mamans aujourd'hui
parce
avec
que
l'assurance
ce n'est
parentale.
Pas le cas, oui.
Exactement, mais de pouvoir reconnaître que ça fait partie de la vie et ça va faire des personnes à travers ça qui vont ressortir d'un état difficile, peut-être même de la détresse, mais pour devenir plus fort et pour être plus créatif et pouvoir redonner à la société.
Mais merci d'avoir donné aujourd'hui, vraiment, de par vos témoignages et vos belles lumières. Je nous souhaite à tous d'oublier la précarité de notre situation et je nous souhaite surtout d'avoir l'appui collectif et gouvernemental qu'on mérite pour traverser cette belle crise-là.
Merci, Rose.
Merci.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.